おかしい、おかしい。
Voilà, c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Claude Ntumba-Kiamanga, la Congolais.
Bonsoir, guerre, honneur qui vous, la communauté pour le développement des pays de l'Afrique australe, SADC, prête à appuyer militairement la RDC. C'est le thème central du débat dans cette émission Dialogue entre Congolais de ce lundi 10 novembre. Le sommet de la SADC s'est tenu dimanche dernier à Johannesburg en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui justifie l'implication de la SADC d'appuyer militairement la RDC? Comment éviter la régionalisation de la crise de l'Est? Pour répondre à ces questions, nous recevons pour vous Robin Minaku, Njalala Njoko, il est député national PPRD, Florentin Mofonda Bonza, sénateur, président de l'Union pour la démocratie et la renaissance du Congo, parti politique de l'opposition, et Arthur Keppel, chercheur, analyste congolais de l'ONG International Crisis Group. Juste après le débat, vous suivrez l'interview du porte-parole de la MONUC. Manoje Monubai réagit aux décisions du dernier sommet de la SADC. Vous savez que nos invités répondront aussi à vos réactions. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Guerre au Nord Kivu, la communauté pour le développement des pays de l'Afrique australe SADC prête à appuyer militairement la RDC dans une région où règne un calme précaire cet après-midi dans les environs de la localité de Ngungu, environ 60 km au sud-est de Goma, territoire de Masisi. Cela après les combats de ce lundi matin entre les troupes de Pareco FAP et les combattants du CNDP. Les deux parties se renvoient à la balle dans ces attaques. Alors, qu'est-ce qui justifie l'implication de la SADC d'appuyer militairement la RDC? Je vous signale que le sommet extraordinaire de la SADC s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, en présence du président de la RDC, Joseph Kabila. Le président sud-africain, Kgalema Motlanthe, c'est lui le président actuel de la SADC. Il a appelé hier dimanche les belligérants en RD Congo à observer un cessez-le-feu immédiat. Autre recommandation, c'est notamment l'assistance militaire et la possibilité de l'envoi d'une force de maintien de la paix de la SADC. À ce sujet, le ministre congolais des Affaires étrangères n'exclut pas un déploiement des troupes angolaises en RDC dans l'avenir, des troupes qui, selon Alexis Thambwe Mwamba, n'ont pas encore foulé le sol congolais. On écoute le ministre Thambwe Mwamba au téléphone hier depuis Johannesburg, joint par Willy Akonda.
La première décision est de déployer immédiatement un groupe d'experts militaires afin d'évaluer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. La deuxième décision, c'est une assistance immédiate qui sera fournie aux forces armées de la République démocratique du Congo afin de leur permettre d'assumer leur mission de protéger le pays. La troisième décision, c'est que le groupe militaire consultatif de la SADC va être déployé immédiatement afin de conseiller le haut commandement des forces armées congolaises sur des matières à convenir avec le gouvernement congolais. Et enfin, la commission militaire de surveillance de la SADC va être envoyée afin de surveiller la frontière avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda.
Voilà, nous avons trois invités, Aubin Minaku, Njalala Njoko, député national PPRD, Florentin Mokonza Bonza, de l'UDRC, parti politique de l'opposition, Arthur Keppel. Florentin Mokonda Bonza est au téléphone, et nous commençons par vous, parce qu'Arthur et Aubin Minaku sont au studio. Bonsoir, monsieur Florentin Mokonda Bonza.
Bonsoir.
Oui, comment vous avez accueilli, vous, cette réaction de la SADC, prête à appuyer la RDC militairement?
Ben, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir appelé et aussi pour vous dire que je ne suis plus président de l'UDRC étant donné que cette dernière partie a été dissous et que pour le moment je préside au destiné de la Convention des démocrates chrétiens. C'est le nouveau parti qui a été créé sur les cendres d'un certain nombre de partis qui existaient jusque-là et qui formaient une coalition.
Merci beaucoup.
Voilà. Alors maintenant, je vais tout droit au but, mais je crois que c'est une très bonne chose pour la SADC de pouvoir venir en aide à un membre qui est en difficulté. Mais je constate tout simplement, malheureusement, que le Congo est déjà en guerre et c'est maintenant qu'on doit assister notre pays comme on assisterait un malade en difficulté. Mais je crois qu'il y a un problème fondamental. C'est celui de la capacité de notre pays à mettre en place une vraie armée nationale et républicaine capable de défendre l'intégrité du territoire. Nous nous retrouvons pratiquement à la même situation qu'en 96, en 98, où il a fallu une coalition pour faire partir le président Mobutu du pouvoir, une autre coalition pour essayer de combattre le président Laurent Désiré Kabila, et une autre coalition pour soutenir le président Laurent Désiré Kabila, et l'histoire est un perpétuel recommencement. Maintenant, c'est encore une autre coalition pour aider la République démocratique du Congo, ce qui fait que nous n'avons pas du tout avancé. Oui. Et ça, c'est vraiment regrettable pour notre pays.
Oui, mais Monsieur Mukunda Bonza, vous êtes une des grandes figures quand même à l'époque de Mobutu. Vous étiez d'ailleurs l'un de ses conseillers.
Non, je n'étais pas conseiller, j'étais plutôt directeur du cabinet du président.
Dans l'entourage quand même de Mobutu.
Bien sûr, un directeur de cabinet ne peut pas être en dehors de l'entourage.
Voilà. Et vous dites que le problème, c'est qu'il faut doter la RDC d'une armée forte. Mais d'abord, est-ce que vous saluez, vous, cette idée de la SADC, cette recommandation, je dirais même, du dernier sommet de la SADC d'appuyer la RDC? Est-ce que vous la saluez, vous?
Mais je vous dis que je ne peux pas refuser que des pays amis viennent en aide à notre pays pour qu'ils puissent tirer de la situation malheureuse dans laquelle notre pays se trouve. Merci. Je ne peux pas refuser.
Merci beaucoup. Robert Milakou, comment on accueille ça au PPRD? On est content que c'est bien joué du côté diplomatique?
C'est avec grande satisfaction que j'accueille la décision de la SADC. Parce que lorsque j'analyse les quatre pans de cette décision, je me rends compte que les États membres de la SADC ont effectivement tenu compte du contexte de la situation congolaise, qui date d'il y a longtemps. Et ce contexte nous démontre que le Congo a été victime, et est encore victime, d'une guerre d'agression. D'ailleurs, la Cour internationale de justice avait eu en son temps, il y a quelques années, a condamné par un arrêt l'Ouganda pour violation de la souveraineté territoriale de la RDC. Ce contexte, c'est aussi l'existence tout de même de certaines rébellions congolaises, bien évidemment manipulées par les États agresseurs. Donc face à une guerre ou à des guerres de prédation et de spoliation des terres par une certaine coalition, il était normal que la SADC, dont fait partie la RDC, État souverain, puisse s'investir en tenant compte de son acte constitutif pour garantir la sécurité et l'intégrité territoriale d'un État souverain membre de cette organisation sous-régionale.
Mais est-ce que cette intervention se justifie aujourd'hui, Jordanien?
Bien évidemment. Pourquoi ne pas se justifier? Parce que jusque-là, il y a guerre. Malgré le cessez-le-feu, respecté particulièrement par les troupes loyalistes. Jusque-là, il y a guerre. Jusque-là, il y a des indices sérieux attestant que certaines puissances étrangères, notamment le Rwanda, sont en train de soutenir des sujets congolais qui veulent, entre guillemets, renverser un pouvoir établi par des élections démocratiques acceptées par tous.
Et si c'est seulement le Rwanda, excusez-moi, Robert Milakou,
oui.
Si c'est seulement le Rwanda, encore faudra le prouver, et pourquoi recourir à toute une communauté sous-régionale pour ça?
Non. Quel est le rôle d'une organisation internationale, d'une organisation sous-régionale? Lorsque vous lisez l'acte constitutif de la SADC, l'un des objectifs, c'est promouvoir et défendre la paix et la sécurité. Et au sein de la SADC, il existe des organes chargés d'assurer le suivi et d'intervenir lorsque un État membre est victime d'une agression.
Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est une façon de reconnaître la faiblesse des parts des cibles?
C'est un autre pan, c'est un autre débat. Je n'en disconviens pas. Les parts des cibles doivent être reformées. L'État congolais est en pleine refondation. Et le travail de reformation, de refondation de nos forces armées a débuté pendant le M+4 jusqu'aujourd'hui. Alors que cette jeune armée est en train d'être refondée notamment par les brassages, etc., survient une situation de guerre. Donc, il est normal de constater que les FARDC connaissent certaines difficultés.
Et donc,
mais personnellement, lorsque j'analyse la façon dont nos vaillantes troupes s'étaient comportées, en 96, là, je parle des FAS, et en 98, les FAC, aujourd'hui, je me dis que quelque part, nous sommes en train petit à petit
de réformer
l'armée, d'évoluer et même de résister.
Et à l'IPG, alors, Arthur Kepel, comment votre ONG, qui est une ONG internationale, spécialisée dans la gestion des conflits, comment vous accueillez cette implication de la SADC sollicitée par la RDC pour les souligner?
Oui, je pense que il faut le dire clairement, le fait que la RDC sollicite cette assistance une fois de plus au niveau régional, ça veut dire que, et là je rejoins mon Kondabonza dans ta déclaration tout à l'heure, ça veut dire que c'est un aveu que les FARDC, l'armée nationale congolaise, est incapable de ramener la paix à l'Est. Deuxième chose qu'il faut dire, je crois que si les autorités congolaises voulaient vraiment bien faire des choses, ils auraient dû tacler les questions d'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui il y a la guerre dans les Kivu, il y a plus d'un million de déplacés, il y a des priorités, parce que le temps que des forces, la SADC, soient opérationnelles dans les Kivu, le cessez-le-feu qui ne cesse d'être violé va causer beaucoup de misère, beaucoup de violence, beaucoup de déplacements de population, et je pense qu'un gouvernement responsable aurait dû donner priorité à cela plutôt que d'aller vers des solutions régionales et négliger des solutions locales.
Le
Parlement l'avait dit. Oui. Le Parlement l'avait dit pour arriver à pacifier les Kivu, la recommandation du Parlement au gouvernement, c'était il faut négocier avec
directement.
Mais ça étonnait plus d'un d'entendre le lendemain le porte-parole du gouvernement dire que Kinshasa n'était pas prêt à des négociations. Alors, donc on privilégie la solution de la violence, ramener plus de militaires dans les Kivu, ce n'est pas certainement ça qui va ramener la paix et une paix durable dans les Kivu. La population l'a dit lors de la visite Mouzito à Goma, on lui a dit, mais vous voulez pas négocier, mais qu'est-ce que vous avez comme carte? Et si la carte que le gouvernement de Kinshasa a, c'est l'intervention de la SADC, c'est l'intervention de l'Angola, je crois qu'on est parti pour un conflit qui durera encore beaucoup plus longtemps. Alors que si on cherchait d'abord à donner priorité à des questions d'actualité, des questions urgentes, on aurait pu avancer, et la violence ne va certainement pas mettre fin à la situation de désastre humanitaire qui sévit dans les
pays. Oui, Corbin Milankou, je vois, je ne sais pas qu'on vérifie un peu que Kenny, qui a la réalisation, vérifie si Mokonda Bonza est encore en ligne. Voilà, on l'a coupé, on va essayer de le retrouver, mais dit Kelly, et disons Kelly là, mais avec Pierrot et la Mégie. Oui, Corbin Milankou, je reviens dans ce studio pour vous. Là, Arthur Kepel vient de rappeler l'une des recommandations du Parlement. Vous-même, vous êtes député national. Vous avez demandé au gouvernement de négocier directement avec Laurent Kunda, il ne faut pas se cacher. Mais vous saluez, entre-temps, l'application de la SADC.
Je crois qu'il n'est pas...
militaire.
Merci. Je crois qu'il n'est pas correct de chercher à tout prix à opposer deux institutions qui pourtant travaillent parfaitement bien, à savoir l'Assemblée nationale et le gouvernement de la République. Le rôle de la gestion de l'État revient au gouvernement. Le rôle de l'Assemblée, c'est de contrôler. Mais l'Assemblée peut aussi faire des recommandations pertinentes, utiles. C'est ce que nous avons fait. Lorsque l'Assemblée recommande, formule une recommandation, selon laquelle il faille négocier directement avec un insurgé, il appartient au gouvernement, organe de gestion, de voir par quelle méthode employer.
Et lorsque j'ai suivi Nairobi 2, il me semble que deux personnalités africaines, je crois une sud-africaine et Obasanjo, je crois, ont été chargées de prendre langue avec le chef des insurgés, Kunda. Donc, il ne faut pas que ce soit qu'on caricature la façon de gérer. L'Assemblée nationale a fait une recommandation. Le gouvernement qui est chargé de la gestion, parce que la gestion ce n'est pas l'Assemblée nationale, tient compte de divers paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a notamment le fait que Kunda est poursuivi pour des crimes internationaux. Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte pour négocier. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ayons confiance en notre gouvernement légitime. Ils laissons le faire.
Donc, vous balayez, pas, vous balayez
le contrôle. Je n'ai pas balayé. J'ai établi la démarcation entre la tâche de l'Assemblée nationale et la tâche du gouvernement. Et à mon sens, jusque-là, il n'y a pas une contrariété fondamentale. Parce qu'on n'a même pas fait 3 semaines, 1 mois. Ce n'est pas en un jour qu'on va directement envoyer un ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît.
Oui, allez-y,
il y a un élément important. Soutenir que le gouvernement a négligé les solutions locales, notamment d'ordre humanitaire, je crois que c'est un jugement injuste vis-à-vis du gouvernement. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le gouvernement puisse croiser les bras, que tous les militaires puissent rentrer à Kinshasa ou à Matadi, et qu'on laisse le terrain de l'Est vide? Pas du tout. Nous sommes en situation de guerre. Sur le plan militaire, il faut autant que cela est possible accorder une certaine capacité dissuasive à nos forces armées, même avec l'appui de nos partenaires. Dans toutes les guerres du monde, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, ça a été pareil. Mais au-delà de cette recherche de la capacité dissuasive pour sauvegarder l'intégrité territoriale de l'État, on doit négocier et agir sur le plan diplomatique.
Merci beaucoup, Benjamin.
Caricaturer la situation, ce n'est pas du tout correct.
Oui. Arthur, on va revenir à vous, parce qu'on me signale, Kevin signale que Mokonda Bonza est revenu en ligne. Oui, Mokonda Bonza, vous avez salué aussi, hein, vous avez dit que c'est une bonne chose que l'État congolais est recouru à la SADC, mais il y a ce que vient de relever tout à l'heure Arthur Kepel qui dit qu'il y a ce risque, parce que là, en fait, vous nous entraînez déjà dans la deuxième partie de l'émission. En fait, si je comprends Arthur Kepel, ce n'est pas une bonne solution de recourir à la SADC. Il fallait plutôt privilégier des solutions locales, notamment les négociations recommandées notamment par l'Assemblée nationale à laquelle fait partie, à laquelle appartient Obeni Nako. Beaucoup d'abondance.
Oui, merci beaucoup, mais parler de dialogue, parler de négociation, ça fait ouvrir une porte qui est déjà ouverte au niveau de la Convention des démocrates chrétiens. Nous, les chrétiens, on n'est pas devant en guerre. C'est normal que nous puissions privilégier le dialogue plutôt que la guerre. Mais la difficulté aujourd'hui de faire la guerre, c'est le fait que nous n'avons pas encore une vraie armée nationale. Contrairement à ce que disait mon ami, le député du PPRD, qui a parlé tout à l'heure, qui a vanté les forces armées, peut-être qu'en partie il a raison, les forces armées font quand même un effort pour ne pas perdre totalement la face, il faut les féliciter. Mais aussi, cette armée qui fait la guerre, est-ce qu'on pense à elle? Est-ce que les militaires sont-ils bien rémunérés? Est-ce qu'ils s'occupent de leur ration pendant qu'ils sont en guerre? Est-ce qu'ils s'occupent de leur famille? Mais aussi aujourd'hui l'armée. On ne peut pas dire qu'on a déjà commencé un vrai processus de réforme de l'armée, étant donné que le recrutement, la promotion, l'affectation, tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'armée, tout ça est à remettre en cause, des sujets à caution. Donc je crois que notre ami de l'ICG a parfaitement raison. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de faire la guerre, il faudrait au moins que nous en soyons ne fût-ce que capables de négocier. Et nous ne devons pas attendre que ce soit trop tard avant de négocier, parce qu'en ce moment-là, nous négocierons en position de faiblesse. et la capacité dissuasive, c'est vrai, il faut la maintenir, mais nous ne l'avons pas aujourd'hui. Et ça, je crois que le Congolais ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même quand on voit la manière dont il a mené l'opération de tantôt de brassage, tantôt de mixage, toutes ces nominations des généraux qui ne sont jamais passés par une académie, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a de à boire et à manger dans cette armée. Mais je crois que la solution la meilleure aujourd'hui, c'est de négocier. Mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. On ne peut pas négocier l'intégrité du territoire. On ne peut pas négocier la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais en dehors de ça, il y a moyen de pouvoir trouver un modus vivendi, parce que le collègue du PPRD a reconnu que c'est une guerre entre les Congolais. Alors, puisqu'on dit que c'est une affaire entre Congolais, s'il y a un Congolais qui s'égare,
il a parlé de la responsabilité
du gouvernement, du président de la République, d'aller vers lui pour qu'il revienne au bercail.
Voilà, on va donner d'abord à Arthur Kepel de réagir avant de vous passer la parole au Benyako. Oui, Arthur Kepel.
Oui, donc je voulais revenir à ce que le député disait tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire aujourd'hui, après un débat que personnellement j'ai beaucoup apprécié au Parlement, qui a abouti à cette recommandation qu'il fallait négocier, aujourd'hui dire que bon, c'est au gouvernement de décider finalement ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire. Quand on n'a pas les moyens pour faire la guerre, mieux vaut ne pas commencer cette guerre. Parce que
on est déjà en guerre.
Ben, on est en guerre, donc l'aspect dissuasif est déjà dépassé. L'aspect dissuasif est déjà dépassé. Aujourd'hui, c'est une question de capacité opérationnelle des FARDC qu'il faut remporter, mais ce n'est certainement pas la SADC qui fera ce travail. Deuxièmement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est la priorité aujourd'hui, c'est de prendre ses responsabilités pour pouvoir adresser les questions du désastre humanitaire dont souffrent les populations du Kivu. Et cela ne s'obtiendra que par le maintien et la capitalisation du cessez-le-feu et deuxièmement, par un dialogue de qualité. La situation des populations du Kivu ne s'améliorera certainement pas par des affrontements entre tel ou tel groupe.
On va justement entrer, on va voir un peu les risques ou tout ce qui peut entraîner, si vous voulez, l'implication de la SADC. Et là, nous entrons dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle, guerre au Nord Kivu, la communauté pour le développement des pays de l'Afrique australe SADC prête à appuyer militairement la RDC. Comment éviter la régionalisation de la crise de l'Est? Nous en parlons tout de suite dans la deuxième partie, mais on vous propose d'abord le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment éviter la régionalisation de la crise à l'Est avec l'implication de la SADC qui est prête à appuyer militairement la RDC? Les pays de la SADC devraient user de leur influence sur le gouvernement congolais afin de pouvoir trouver une solution négociée au lieu de recourir à la solution militaire pour régler la crise dans le Nord Kivu. Ce sont les propos de Bertrand Bissimwa, porte-parole du CNDP. Il estime que son mouvement craint de voir le déploiement des troupes de la SADC entraîner l'entrée en jeu des pays voisins de la RDC comme le Rwanda et l'Ouganda au risque de régionaliser le conflit. On écoute Bertrand Bissimwa au téléphone de Pierrot et Lamégie.
La SADC faisait partie des belligérants et donc cette rentrée sur le sol congolais, surtout militaire, nous inquiète et nous nous demandons quelle sera la réaction des autres belligérants qui leur étaient opposés à l'époque. Nous pensons que les Congolais n'ont pas besoin d'une solution militaire présentement. Les pays de la SADC devaient user de leur influence sur le gouvernement de la République afin de pouvoir privilégier une solution tout à fait politique et pacifique à la crise.
Bon, quand vous parlez de la réaction des autres ex-belligérants. Vous parlez de quels belligérants?
Des pays comme le Rwanda, par exemple, s'inquiètent sur la présence des FDLR sur le sol congolais. Des pays comme l'Ouganda, qui ont des rebelles de LRA et Nalu sur le sol congolais. Toute armée qui viendrait appuyer les forces armées de la République sera, d'une manière ou d'une autre, un appui à toutes ces forces-là, risque de donner la raison à tous ces pays frontaliers de l'Est du pays pour qu'ils puissent intervenir afin de garantir leur sécurité.
Mais ces pays voisins qui pourront s'impliquer, est-ce qu'ils pourront envoyer leurs troupes agir directement ou les troupes viendront en appui au mouvement congolais qui existe déjà?
Bien, ce que je sais, c'est qu'ils viendront pour défendre la sécurité de leur peuple.
Mais si jamais les troupes de la SADC sont déployées sur le terrain, comment va se comporter le CNDP?
Les troupes de la SADC viendront aider le gouvernement à combattre le CNDP et donc nous pourrions les avoir en face. Et imaginez-vous le comportement qu'on aura.
Alors, Aubin Minako, vous qui êtes député national PPRD, de l'alliance donc de la majorité présidentielle, vous n'avez pas peur que des pays comme l'Ouganda, le Rwanda reviennent au pays, qu'on revive le scénario des années 98?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que le processus de négociation n'est pas, à mon sens, exclusif d'une réorganisation militaire sur le plan opérationnel. Parce que nous sommes quand même un État souverain. Nous avons des États amis qui peuvent nous aider. Donc il n'y a pas contrariété que le commandant suprême par défi, que les officiers généraux et autres réorganisent les militaires sur le terrain pour contenir l'avancée des insurgés. Et en même temps, politiquement, le gouvernement doit travailler, notamment en rapport avec la recommandation de l'Assemblée. Ne pas comprendre cela, c'est faire montre de mauvaise foi. La régionalisation. Il n'y aura pas régionalisation si nous nous en tenons au principe de droit international.
Okay.
Le Rwanda doit-il intervenir au Congo? Au nom de quel fondement juridique international? Même le droit de poursuite n'est pas consacré par le droit international. L'Angola, les troupes de la SADC, s'ils interviennent au Congo, c'est à quel titre? C'est suite à une demande d'un État souverain, d'un gouvernement légitime issu des urnes, dans le cadre d'une organisation sous-régionale qui a notamment pour objet la sécurité réciproque des États membres. Il y a un fondement juridique.
Donc pour vous, il y a
et
pas
donc,
risque de régionalisation.
Si, il y a risque. Et pourquoi il y a risque? Il n'y a qu'à voir l'histoire. Nous avons été agressés. Depuis toujours, depuis 98. En réalité, ceux qui prétendent que le Rwanda va intervenir au cas où les troupes angolaises et autres viendraient, c'est ceux-là qui sont en train de trahir le Congo pour faire aboutir les objectifs inavoués du Rwanda, c'est clair. Parce qu'il n'y a aucun fondement juridique pour que les troupes rwandaises, un État souverain, viennent sous le territoire d'un autre État souverain, intervenir parce que cet État a été soutenu par les siens. C'est inexplicable sur le plan juridique et même sur le plan de la simple logique.
Je crois que les choses se disent de manière assez simple. Pour avoir des troupes de la SADC au Congo, dans les Kivu, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passera. Il faut pas oublier, il y a une facture, il faut un certain nombre de paiements à faire, il faut de l'argent pour permettre à cette mission d'intervenir. Mais là où
il y a des pays qui seraient déjà favorables,
ouais, lorsque vous voyez ces pays avec leurs propres problèmes internes, n'oubliez pas l'Afrique du Sud non plus. Il faut pas penser que les choses peuvent se faire de manière aussi facile qu'on le croit.
Donc, vous pensez que ça risque de prendre du temps?
Ça prendra du temps, mais entre-temps, la misère des populations de Kivu, qui, pour nous, devrait être la priorité, Et la première préoccupation du gouvernement congolais, ça, c'est des questions qu'il faut traiter dans l'immédiat.
Mais
il ne faut pas se cacher derrière des organisations régionales comme la SADC.
Oui.
Je pense que...
Vous pensez que la RDC se cache.
Absolument. Si ce n'est pas la MONU qui ne protège pas les populations civiles... demain, ce sera la SADC, alors que cette responsabilité revient d'abord au gouvernement congolais, à l'État congolais.
Bon. Voilà. Oui, Robin Minakou dit non, mais oui, d'abord, mon condamnant, Florentin, est-ce que vous pensez que l'implication de la SADC, on a suivi le porte-parole du CNDP qui, lui, pense que cela pourrait pousser les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, à revenir au pays?
Oui, je crois que ne pas reconnaître que le risque est là et que le pays voisin pourrait éventuellement intervenir, c'est vraiment de la malhonnêteté. C'est en fait oublier l'histoire, avoir une mémoire courte. Bon, nous avons été agressés, c'est peut-être vrai, encore faut-il le prouver. Mais aujourd'hui, si la SADC arrive... Je disais que c'est une bonne chose.
Mais les risques sont très importants.
Oui. Les prix à payer. Les prix à payer du point de vue humain, les prix à payer du point de vue des destructions, les prix à payer du point de vue de finances, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui avaient aidé le président Laurent Désiré Kabila à faire tomber le président Mobutu.
On a perdu Mokonda Bonza. Nous ne l'avons pas coupé, je vous rassure. Kelly va s'atteler à le reprendre. Robin Minakou, justement, vous ne semblez pas être d'accord, mais je signale que vous êtes trop en avance par rapport au ministre. Mais allez-y très rapidement parce que vous voulez déjà réagir par rapport à ce que mon compte a posé.
Je dirais que la RDC étant membre des Nations Unies, il est normal que la RDC attende des Nations Unies un soutien. Il n'y a pas de honte. Il est normal que la RDC attende un travail sérieux de la part de la MONU.
Là, vous êtes en train de répondre à Arthur Kepon qui a dit que la première responsabilité revenait à la RDC.
Même si la première responsabilité revenait à la RDC, mais en tant que membre à part entière des Nations Unies, c'est normal que nous attendions un soutien des Nations Unies qui évoluent avec nous depuis 1+4 jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que ce qui doit nous lier, nous Congolais aujourd'hui, c'est que nous sommes en guerre. Et nous savons que cette guerre vient de l'extérieur. Face à cette situation, il y a des mesures urgentes à prendre. Sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan militaire. Ça ne s'exclut pas du tout.
Ok. Oh bien, on va prendre les auditeurs, qui étaient plutôt déjà là, et va nous donner la suite des d'autres réactions. Mais nous avons d'abord Farouk Matofali de Goma, Nord Kivu. Il estime que c'est par solidarité africaine et sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC que les pays membres de la SADC doivent l'appuyer militairement. Cet appui, conclut-il, est indispensable. Justin de Kalemi au Katanga, lui n'accorde aucune chance à la SADC. À son avis, ce dernier, donc la SADC, n'a pas fait ses preuves au temps de Laurent Désiré Kabila. Enfin, pour ce premier lot de réactions, Pierre de Kananga au Kassai occidental, il pense qu'accepter l'aide de la SADC, c'est rester dépendant vis-à-vis de ceux qui ont toujours malmené ses compatriotes sur le territoire, sur leur territoire, au mépris des règles de bon voisinage, qui cite l'Angola. Cette énième dette, pour ce qu'il, que la RDC veut contracter, va peser lourd dans ses relations d'État à État. Arthur Kepel, très rapidement.
Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie assez vite le contenu de la conférence de Goma, qui était l'occasion où les communautés du Kivu se sont exprimées de manière assez sérieuse et ont fait ressortir les causes profondes de la crise aujourd'hui. C'est-à-dire que avant d'aller sur le plan régional, je crois qu'il faut capitaliser sur ce qui a été dit à la conférence de Goma et s'adresser aux racines de la crise qui sont locales. Les Maïmaï ne se battent pas parce qu'ils sont soutenus par le Zimbabwe. Les Maïmaï se battent parce qu'ils ont des raisons qui les poussent à se battre. Ce sont des raisons locales.
Non, pour vous, il faut privilégier les raisons locales.
Absolument, il ne faut pas oublier cela parce que c'est ça le cœur même de ce conflit. Aller à Nairobi, c'est une bonne chose. Aller à la SADC, c'est une bonne chose. Mais on semble oublier l'essentiel et aller dans le cosmétique. Je ne pense pas que la SADC, c'est la solution. la solution pour une paix durable dans les Kivu.
Voilà. On va demander à Florentin Mokonda-Bonza de terminer en une minute, hein, Florentin. Terminez votre idée sur le risque de régionalisation.
Oui, oui, je disais que il y a certainement un prix à payer parce que hier, par exemple, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il a fallu que l'on puisse céder, par exemple, de mines au Zimbabwe, et il a fallu qu'on cède, par exemple, des puits pétroliers à l'Angola. Et bien aujourd'hui, les autres vont intervenir. Pourquoi? Pourquoi ils trouvent un prétexte? C'est les FDLR et les LRA pour lesquels notre gouvernement ne fait rien pour les mettre hors d'état de nuit. Et voilà pourquoi les autres trouvent un prétexte pour venir foutre le désordre dans notre pays. Je crois que si le gouvernement avait pris le courage de pouvoir travailler pour que les FDLR puissent rentrer dans leur pays et que les LRA ne puissent pas continuer à s'aimer de la mort et la désolation dans la province orientale, voilà aujourd'hui une occasion que les Rwanda et l'Ouganda risquent d'exploiter inutilement.
Donc on retient pour vous, de votre part, que sur le risque de régionalisation est là.
Le risque est là.
Voilà. On va poursuivre les réactions. Robin, je reviendrai à vous. Je vais vous donner la parole, je vous promets, avec Titine Poutou pour la suite des réactions. Bonsoir, Titine.
Bonsoir, Jean-Claude. Pour Malou César de Bounian, province orientale, le gouvernement de la RDC doit savoir qu'aucune intervention extérieure n'est pas substituée à l'armée nationale pour résoudre un conflit entre Congolais, car, dit-il, tous envient les richesses de la RDC. Kakisi depuis Lubumbashi au Katanga pose la question de savoir comment est-ce que la RDC pourra payer la SADC pour ses services. Il pense que la voie diplomatique est la meilleure parce que la force ne résout rien.
Il s'agit bien de Kakisi, hein, qui nous a écrit depuis Lubumbashi.
Voilà, Odian Colin de Kisangani en province orientale lui dit ceci: si le Rwanda dit qu'il n'est pas impliqué dans la rébellion kundiste, pourquoi parler de la régionalisation du conflit étant donné que c'est une affaire congolo-congolaise? Eugène Bagouma de Goma en Nord Kivu pense que l'implication de la SADC est justifiée par le désir de soulager la souffrance et d'assurer la protection de la population, car, dit-il, la MONUC a démontré ses limites à travers plusieurs massacres. Et il demande aux pays membres de la SADC d'appuyer les efforts du gouvernement élu pour établir l'autorité de l'État. Enfin, Franck Monzamboy de Mbandaka dans la province de l'Équateur pense que l'option militaire ne réglera pas les conflits, car ce sont les Congolais qui seront tués quand les militaires de la SADC s'affronteront avec les rebelles. À son avis, c'est le dialogue avec Kunda qui pourra changer les choses.
Est-ce que, maintenant, que vous croyez au dialogue pour régler, dialogue avec Kunda, dialogue direct, gouvernement Kunda pour régler cette question?
Fondamentalement, de par ma personnalité, je crois au dialogue. Mais ici, c'est une affaire d'État. J'essaie de démontrer que le dialogue, je me répète, n'est pas exclusif d'une organisation sur le plan militaire. Kunda, qui est-il? Lorsque il y a eu réunification de l'armée, lorsque tous les officiers généraux sont venus de Goma, de Mbandaka, de Kisangani à Kinshasa, quel est l'officier général qui n'avait pas voulu atterrir à Kinshasa? C'est Kunda. Il y a eu la conférence de Goma, que j'ai beaucoup soutenue et que nous devons continuer à soutenir le processus Amani. Qui s'est départi du processus Amani? C'est le CNDDP avec Kunda. Vous comprenez? Donc, il faut prendre le dossier dans son contexte, il faut dialoguer avec une méthode appropriée, mais en même temps, en tant qu'État, autant qu'il y a possibilité, nous devons nous organiser militairement. Oui. S'organiser militairement ne signifie pas être militariste. Oui. Pas du tout.
Oui. Très rapidement, quelques secondes, parce que là, il faut qu'on donne la parole à d'autres invités. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent que le pays soit de plus en plus dépendant de la SADC si elle devait intervenir?
Le pays est membre de la SADC depuis de longues années. En tant que membre de la SADC, nous avons des droits vis-à-vis de la SADC. Aujourd'hui, il y a une guerre en RDC. Une guerre d'agression, je dirais. Moi, je ne m'en cache pas. Et face à pareille situation, s'engage aussi la Cour internationale de justice, hein, qui a eu à se prononcer il y a quelques années, et c'est la même guerre qui continue en réalité. Donc, face à une situation pareille, je ne vois pas pourquoi des Congolais peuvent empêcher le gouvernement
à bénéficier de ses droits vis-à-vis d'une organisation sous-régionale.
Oui, alors, oui, Mokunda Bonza.
Je vous écoute.
Oui, c'est pour réagir un peu à... Il y a eu beaucoup de réactions, des messages des Congolais, ceux qui pensent qu'il faut un dialogue direct avec Mokunda pour régler la question, d'autres qui craignent cette forte dépendance de la RDC vis-à-vis de la SADC. Très rapidement, en une minute, parce qu'on tend pratiquement vers la fin de cette partie débat.
Voilà, je reviens à l'histoire, parce que nous avons la mémoire courte. En 1996, l'actuel président du Sénat, alors Premier ministre, a proposé qu'on puisse renvoyer, par exemple, tous les réfugiés Hutus qui sont entrés dans notre pays. Et le Parlement, à l'époque, je crois, avait refusé. Vous connaissez les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, comme dit le député, le collègue député du PPRD, on ne peut pas empêcher notre armée de notre pays de réorganiser son armée. On ne peut pas non plus l'empêcher de pouvoir faire appel à des amis extérieurs pour venir l'aider. Mais on ne peut pas empêcher aussi notre pays de parler avec les fils du pays qui prennent les armes contre le pays. Parce que continuer à dépendre des autres pays, c'est très dangereux. C'est le pays qui continue à aliéner sa souveraineté.
Merci beaucoup, Mokunda Bonza. Juste en quelques secondes, Arthur, un petit mot, parce qu'on doit, prendre l'interview avec la MONUC. Juste en quelques secondes, hein, on va clôturer cette partie débat.
Je crois que les Congolais devront comprendre, après les expériences d'intervention anglaises, zimbabwéennes et autres dans ce pays, ce que ce pays a payé et continue encore à payer jusqu'à aujourd'hui. Je crois que les Congolais, il est temps pour que les Congolais se rendent compte qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et essayer de gérer dans la mesure du possible les problèmes internes plutôt que de se cacher derrière les autres.
Voilà, ça c'est la fin de la partie débat, puisqu'il y a des questions sur le rôle de la MONUC face au déploiement des troupes de la SADC, si ça devait intervenir. Nous avons posé la question au porte-parole de la MONUC, Manoje Mounoubaï, qui les répond à quel écoute. Entre-temps, nous disons au revoir à nos invités.
Monsieur Mounoubaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la MONUC en rapport avec la situation de crise qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. La SADC se dit prête à aider militairement la RDC dans le règlement de la crise au Nord Kivu. Quelle est la réaction de la MONUC?
Ben, vous savez que la réunion de la SADC s'est tenue à la suite du sommet qui a eu lieu à Nairobi, le vendredi dernier. Et nous pensons que tout cela s'inscrit dans la droite ligne de la décision, des décisions qui ont été prises lors de ce sommet de Nairobi. Nous constatons que la crise à l'est de la République démocratique du Congo n'est plus simplement une préoccupation pour les Nations Unies, mais que de plus en plus les pays de la sous-région ont compris que si cette crise ne trouvait pas une solution, c'est toute la sous-région qui allait s'embraser et que c'est la paix dans toute la sous-région qui va être menacée. Nous avons aussi pris connaissance de la déclaration du sommet de la SADC et pour nous, cela rentre dans le cadre du renforcement des moyens afin de ramener la paix en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le représentant spécial du secrétaire général avait déjà fait cette demande auprès du Conseil de sécurité. Donc, nous voyons là simplement une volonté des États de la sous-région de contribuer à régler le problème de l'Est de la République démocratique du Congo.
Monsieur Mounoubaï, si la RDC fait que la SADC déploie sa force en RDC, quel serait alors le rôle de la MONUC?
Le rôle de la MONUC est bien connu. La MONUC a un mandat du Conseil de sécurité qu'il essaye de conduire au mieux avec les moyens qui sont les siens et les moyens que nous connaissons. Maintenant, si la SADC ou une autre force veut venir pour contribuer au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, nous pensons que ces forces sont les bienvenues. Et c'est à ce moment-là que l'on va discuter de la collaboration, de la chaîne de commandement et peut-être de la répartition des rôles de ces forces. Nous avons un exemple, par exemple, au Soudan, où il y a une force hybride, Nations Unies et aussi unité africaine, et cela marche très bien. Tant que l'avenir de ces forces n'est pas encore décidé, je crois que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Il faudrait attendre pour discuter de comment les deux forces vont travailler ensemble. Nous avons un mandat qui est très clair et nous allons continuer à respecter le mandat qui est le nôtre et qui est donné par le Conseil de sécurité.
La MONUC est présente en République démocratique du Congo, mais la guerre se poursuit au Kivu. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, la MONUC a failli à sa mission?
La MONUC n'a pas failli à sa mission, parce que vous semblez dire que c'est à la MONUC de faire la paix. Ce n'est pas à la MONUC de faire la paix en République démocratique du Congo.
La paix.
La MONUC n'a pas. C'est d'abord aux Congolais de faire la paix, d'accepter de faire la paix du cœur, d'accepter la réconciliation nationale. On peut mettre un soldat onusien derrière chaque maison, mais tant que les Congolais ne seront pas prêts à se pardonner entre eux, à se réconcilier entre eux, il n'y aura pas la paix dans ce pays.
Voilà, c'était l'interview du porte-parole de la MONUC, Manoje Mounoubaï, sur la réaction de la MONUC aux résolutions du dernier sommet de la SADC. Je rappelle qu'en première partie de cette émission, nous avions le débat avec Aubin Minakou Njalanjan Joko. Il est député national PPRD, Florentin Mokonda Bonza, président de la Convention des démocrates chrétiens, et Arthur Keppel, chercheur à l'ICG. Merci à tous de nous avoir suivis. Thank you.